Oh là, on remercie vraiment très vivement et très particulièrement Jacqueline Lalouette parce que
Je vous en
c'est une
prie.
fidèle de la bibliothèque. Il y a 3 semaines maintenant, elle nous a fait, oui, 3 semaines à peu près,
Oui.
une présentation
Oui.
d'un des symboles de la
Symbole d'époque.
République, à savoir l'hymne. Et comme il y a beaucoup à dire, eh bien, elle a réussi à trouver dans la foulée un moment pour venir nous parler de la suite des aventures de cette Marseillaise. Alors, les élèves qui n'étaient pas là au premier cours peuvent trouver sur le site de la BAI la première partie de la conférence de Jacqueline Lalouette. Comme d'ailleurs la plupart des conférences qui sont données ici, il y en a maintenant 268 sur le site que vous pouvez écouter.
Il y a quelqu'un qui arrive.
Voilà.
J'espère que je vais arriver au terme de ce que j'ai prévu sur un mode un petit peu schématique pour arriver quand même à boucler ces affaires de Marseillaise. Donc, je redémarre à la Grande Guerre, puisque je crois que je m'étais arrêtée l'autre jour au moment où les trois symboles, drapeau, hymne et devise avaient été réunifiés. Je redémarre à la Grande Guerre. Alors, la question qui s'est posée au moment de la mobilisation, c'était de savoir, et ça ne joue pas que pour les symboles, savoir ce qu'allaient faire les socialistes. Si les socialistes chantaient la Marseillaise, c'était bon. S'ils chantaient l'Internationale, c'était mauvais pour la mobilisation. Or, ils chantent la Marseillaise. On lit dans le bonnet rouge du 3 août 1914, socialistes, mes frères, reléguons notre internationale et notre drapeau rouge. Notre chant, désormais, c'est la Marseillaise et notre drapeau, les trois couleurs. Comme en 93, l'un dans ses plis et l'autre dans ses strophes porte l'âme des peuples libres. Et dans la guerre sociale du 4 août, Gustave Hervé va encore plus loin puisqu'il interpelle directement Jaurès, qui avait été assassiné, comme vous le savez, le 31 juillet. Gustave Hervé demande à Jaurès, n'est-ce pas Jaurès que vous permettez de chanter la Marseillaise aujourd'hui derrière votre cercueil? N'est-ce pas que tout en gardant notre cœur de toute haine contre le peuple allemand, contre nos frères les socialistes allemands, nous pouvons chanter hardiment qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon, et tout le monde est parti, comme en 14, comme on dit. Alors, Jean-Jacques Becker, qui a étudié l'entrée en guerre, à partir de rapports de préfet, comment se conduisent les mobilisés, etc., signale une quinzaine de manifestations patriotiques s'étant déroulée à l'annonce de la mobilisation dans des villes d'importance variable. Et dans cette quinzaine de grandes manifestations patriotiques, eh bien, la Marseillaise était chantée, et chantée par ceux qui restaient, mais aussi chantée par ceux qui partaient. Donc, après la mobilisation, que se passe-t-il? C'est très très difficile d'avoir, enfin, ça m'a été difficile à moi, malgré mes recherches dans la presse et autres, de relever des mentions sur le chant de la Marseillaise au front. De même d'ailleurs que c'est assez difficile de savoir ce qu'il en était du drapeau tricolore au front. Il y a des auteurs qui écrivent que la Marseillaise n'a jamais été chantée au front. Ça, c'est excessif. J'ai trouvé quelques exemples. Alors, les premiers mois de guerre, quand les soldats ne sont pas encore enterrés dans les tranchées, et puis ensuite, il y a le front immobilisé, quand les soldats sortent de la tranchée pour partir à l'attaque. J'ai gardé ici 2 ou 3 exemples que j'ai relevés. Dans une lettre écrite à sa sœur, le 22 février 1915, un poilu marseillais relate une attaque lancée contre une tranchée allemande sous la conduite de 3 lieutenants. L'un, suivi de ses hommes, s'élança en criant « pour la France », puis il entonna la Marseillaise et immédiatement éclat d'obus ou balles et il tomba. Le 8 août 1916, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc reçut l'ordre de reprendre le village de Fleury dans la Meuse. L'attaque, relate une source, se fit au chant de la Marseillaise et de l'hymne de l'infanterie de marine. Assez souvent aussi, alors là c'est pas une question d'attaque, on a des mentions de musiciens brancardiers. Les musiciens des harmonies militaires servaient de brancardiers, mais quand c'était nécessaire, ils jouaient aussi de la musique. Et là, à chaque fois qu'il y avait des remises de décoration, ou qu'il y avait une revue, ou un défilé, ou une entrevue avec des officiers des armées alliées, les musiciens brancardiers jouaient la Marseillaise. Récemment, un journaliste a interrogé Philippe de Villiers, lui demandant pourquoi il aimait la Marseillaise. Et parmi les réponses qu'il a données, ça a été que son grand-père, Louis de Villiers, était mort à la guerre en chantant la Marseillaise. Vrai ou faux, on n'en sait rien. Alors, les poilus pouvaient aussi entendre chanter la Marseillaise lorsqu'ils assistaient à un spectacle donné par le Théâtre aux Armées. Le Théâtre aux Armées, ça a été une institution importante pour divertir les soldats, leur changer un petit peu les idées. Et la Marseillaise était chantée à chaque spectacle. Et au printemps 1916, Sarah Bernard elle-même, qui avait alors 72 ans, qui avait déjà été amputée, est venue sur le front pour chanter dans un spectacle intitulé « Cathédrale », qui est un grand poème dramatique. À un moment donné, quelqu'un dans cette pièce crie « aux armes », la musique attaque la Marseillaise, Sarah Bernard la chante, et 3000 soldats qui étaient présents pour assister à ce spectacle reprennent l'hymne en chœur. Mais dans ces années de guerre, la cantatrice qui a le plus souvent chanté la Marseillaise, c'était une cantatrice qui s'appelait Marthe Chenal, que j'ai mise sur la couverture de mon livre. Elle la chantait généralement en tendant les bras comme ça, avec un bout du drapeau accroché à chaque petit doigt, et ça lui faisait comme une grande voile tricolore derrière elle. On la considérait comme la Marseillaise incarnée. Enfin, il faut mentionner deux Marseillaises mises en scène dans le secteur des tranchées. Alors, je retiens cet exemple parce que ce sont deux exemples de Marseillaises jouées à Noël qui vont tout à fait à rebours de quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, la fraternisation des armées à Noël 1914, les soldats français et les soldats allemands s'échangeant à la grande fureur des officiers d'ailleurs, se donnant des marques d'amitié, échangeant des cadeaux, etc. Là, on a deux cas totalement opposés. En 1914, Blaise Cendrars, qui a écrit ses mémoires sur la guerre, ce qui s'appelle « La main coupée », donc Blaise Cendrars et ses compagnons légionnaires, il était dans la Légion étrangère, décidèrent, citation, de faire une belle surprise aux Boches pour leur Noël. Alors, ils avaient trouvé un gramophone dans une maison abandonnée, il y avait des disques, il y avait un disque sur lequel des microncillons, sur lequel il y avait la Marseillaise. Ils l'ont bricolé avec un petit ressort pour qu'à chaque fois le microncillon reparte sur la Marseillaise. Et tandis que les Allemands chantaient au Tannenbaum, ils mirent en route l'appareil, se sauvèrent en balançant des grenades. Et j'ai trouvé un deuxième Noël comme ça, avec le même genre de choses, envoyer le chant de la Marseillaise et des armes en même temps. Alors, pendant la guerre, il y avait aussi les symboles à l'arrière. Alors là, c'est plus facile de savoir ce qui se passe à l'arrière. La Marseillaise y était très souvent chantée. Elle était chantée dans tous les spectacles, dans les concerts de musique classique, dans les conférences, à l'opéra comique. Enfin, les salles de spectacle avaient fermé au début de la guerre. Dès qu'elles ont été réouvertes, on y jouait régulièrement la Marseillaise. Et là encore, on rencontre Marthe Chenal, qui la chanta d'abord au casino de Villers-sur-Mer, où elle avait une villa, où elle s'était engagée comme infirmière, et donc elle la chantait là-bas, et puis elle est venue la chanter à l'opéra, au Trocadéro. L'image la représentant avec le grand crapaud tricolore derrière elle, c'est un portrait qui avait été commandé à un peintre militaire, George Scott, et ce portrait a été reproduit dans l'illustration et diffusé par de nombreuses cartes postales. La Marseillaise était aussi chantée dans ce qu'on appelait les cafcons, ce qui étaient des établissements très populaires, qui étaient souvent considérés comme ce qu'on appelait des beuglants. et un chansonnier du nom de Jean d'Hermont en fut révulsé. À force d'entendre la Marseillaise hurler comme ça dans les beuglants, il composa une chanson intitulée « Une soirée aux beuglants » ou « Le sarbotage de la Marseillaise » dans les Cafcons, qu'il interpréta en 1915 au Moulin de la Chanson. Alors, cette chanson comprenait 6 strophes et 6 refrains différents, je vous en donne un. Le refrain terminal était celui-ci. « Et moi, qui me flatte pourtant d'avoir, mon Dieu, l'âme française, je trouve que de la jouer ainsi dans les beuglants, c'est saboter la Marseillaise. » Voilà. Alors, ce phénomène de chant de la Marseillaise un petit peu partout n'était pas propre à la capitale. On la chantait aussi en province. La présidente de l'œuvre de la chanson française, qui s'appelait Eugénie Buffet, organisa dans tout le Midi des spectacles patriotiques composés de lectures, de petites pièces et de chansons pour les soldats en permission, pour les soldats qui étaient envoyés à l'arrière dans les hôpitaux, etc., puis aussi pour les civils. Et la Marseillaise y était en bonne place. Cependant, comme le souligne un historien, il ne faut pas oublier, à côté de la Marseillaise, le chant de la Madelon, qui a été un chant extrêmement populaire pendant la Première Guerre mondiale et qui a dû être beaucoup plus souvent chanté par les soldats au front que la Marseillaise elle-même. Alors au moment de l'armistice, il y a eu une débauche de symboles à Paris, mais dans toutes les villes et dans toutes les communes de France, en partie parce qu'il y avait le retour des soldats mobilisés, en partie parce que c'était la victoire, etc. Donc dès l'annonce de l'armistice, tous les magasins, toutes les administrations, toutes les écoles ont fermé et tout le monde s'est répandu dans la rue en chantant la Marseillaise et la Madelon. Alors, Marthe Chenal, précisément, chanta la Marseillaise depuis le haut du péristyle de l'opéra, devant une foule qui s'était rassemblée là, des dizaines de milliers de personnes, et on dit que Georges Clemenceau était présent à l'intérieur du Grand Hôtel, sur la place de l'Opéra, et qu'il pleurait en l'écoutant. Et ce chant de la Marseillaise par Marthe Chenal sur le péristyle de l'Opéra a été considéré comme si important qu'il y a une plaque commémorative apposée sur la façade du dernier domicile de Marthe Chenal, 94 rue de Courcelles. Donc cette plaque rappelle que Marthe Chenal chanta la Marseillaise du balcon de l'Opéra aux acclamations du peuple de Paris le 11 novembre 1918. Mais ces scènes parisiennes se retrouvèrent dans toutes les villes et grandes, petites, moyennes. Alors le 11 novembre après-midi, la Marseillaise fut aussi chantée à la Chambre des députés. C'est pas si souvent que ça que la Marseillaise soit chantée à la Chambre des députés. J'en ai un certain nombre d'exemples, je vous en donnerai d'autres. En tous les cas, elle a été chantée le 11 novembre 1918. Ce n'est pas raconté de la même manière dans le journal officiel et dans les différents journaux parisiens ou de province. Apparemment, une petite manipulation idéologique dans plusieurs journaux à propos de ce chant de la Marseillaise. Alors, Clemenceau vit aussi la Marseillaise chanter à Strasbourg. Il vit une vieille bonne sœur, baissant les yeux sous sa coiffe, qui chantait la Marseillaise comme elle l'aurait fait d'un hymne, comme elle aurait dit, une prière. Et il en fut profondément ému. Donc je parle de Strasbourg. Vous imaginez comment la Marseillaise a pu être chantée à Strasbourg, à Colmar, à Metz, etc., etc. Alors, entre deux guerres, on a de nouvelles formes de glorification qui arrivent. Je vous avais parlé des formes de glorification avant 1914. Alors, on a deux nouvelles formes de glorification qui sont le 11 novembre et les monuments aux morts. Alors, le 11 novembre est fixé une première fois en 1921. Et on dit que le 11 novembre sera célébré le 11 novembre si le 11 novembre est un dimanche. Si c'est un jour de la semaine, pour pas faire un jour chaud mais supplémentaire, on la déplace au dimanche suivant. Grande colère des anciens combattants qui ont été absolument furieux, et c'était un poids extrêmement important dans la société de l'entre-deux-guerres. Et donc, la Chambre des députés et le Sénat ont été priés de revoir leur copie. Et en 1922, deuxième loi sur le 11 novembre, qui est fixé le 11 novembre, que ce soit un dimanche ou un jour de la semaine. Donc il y a des cérémonies le 11 novembre. Et puis il y a les constructions des monuments aux morts qui vont s'échelonner dans les années 1920 et 1930. Et ces cérémonies du 11 novembre se passent devant les monuments aux morts. Donc il y a les drapeaux, il y a des poèmes, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, heureux ceux qui sont morts pour un coin de terre charnelle, vous retrouvez Hugo et Peggy, et bien sûr, il y a des drapeaux et la Marseillaise. Et ça, ce n'est pas fini, c'est quelque chose qui dure toujours. Alors, dans l'entre-deux-guerres, on a aussi un moment particulier qui est 1936, centième anniversaire de la mort de Rouget de Lisle. Donc il y a eu de très grandes cérémonies à Paris, à Lons-le-Saunier qui était sa ville natale, à Choisy-le-Roi qui était la commune où il était mort, et il y a eu un grand spectacle intitulé « L'apothéose de la Marseillaise » qui a été donné aux Invalides par 1000 musiciens venus de tous les régiments de France, 1000 musiciens et 300 choristes. Vous imaginez la sensation sonore que cela a dû donner. Et puis c'est aussi en 1936 que Jean Renoir a tourné son film intitulé « La Marseillaise ». Il y a la Marseillaise, le drapeau, mais il y a aussi des symboles concurrents. Alors des symboles concurrents, c'est bien sûr le drapeau rouge par rapport au drapeau tricolore, et c'est l'international par rapport à la Marseillaise. L'international avait été composé en 1871 par Eugène Potier et elle a été mise en musique plus tard par Eugène de Jeter en 1887. Donc déjà dans les années 90 et les premières années 1900, l'international, on l'entendait dans les grèves, dans les manifestations, etc. Là, la situation va s'aggraver, entre guillemets, puisqu'il y a deux scissions qui surviennent à la fin de la Première Guerre, deux scissions au sein de la SFIO, ça va être le PCF, et au sein de la CGT, ça va être la CGTU, qui adoptèrent, donc le PC et la CGTU adoptent l'international, dont le Parti communiste fit un très très grand usage jusqu'en 1935. Il y en a eu un exemple tout à fait spectaculaire en novembre 1924 lors de la panthéonisation de Jaurès, puisqu'à côté du cortège officiel, il y a eu un cortège off, un cortège parallèle mené par les communistes à l'ombre de centaines de drapeaux rouges et au chant de l'international. Alors, dans cette période où il y a cette concurrence de l'international et du drapeau rouge, on a aussi des formes d'outrage qui apparaissent. Alors vous avez peut-être tous entendu parler du poème de Jean Zay qu'il avait composé quand il était un tout jeune homme, où il traitait le drapeau tricolore de saloperie pour laquelle était morte, un torchon pour lequel était mort 1 500 000 de jeunes gens, etc. Ce poème était composé à destination d'un groupe de jeunes gens qui se réunissaient dans un esprit plus ou moins surréaliste. Et puis quand il est rentré adulte dans la vie politique, quelqu'un l'a trahi et a diffusé ce poème dont le texte avait été gardé. Donc bien sûr, toute la presse d'extrême droite s'en est emparée et ça a suivi Jean Zay toute sa vie et ça n'a pas étrangé à la vindicte qui a conduit à sa mort. Donc ça c'est pour le drapeau, mais on a aussi d'outrage à la Marseillaise avec Aragon, qui a été surréaliste, qui appartenait au parti communiste et qui a composé un grand poème intitulé « Hourra l'Oural », publié à Paris en 1934, dans lequel il y a un texte intitulé « Réponse aux Jacobins ». Ça, 2 ans après le retour de l'URSS avec Elsa. Alors, c'est un poème en vers libre. C'est assez curieux comme composition. C'est une Marseillaise démembrée, c'est-à-dire qu'il cite des vers de la Marseillaise, puis il commente, et puis de nouveau, vous allez voir ce que ça donne. « Le jour de gloire est arrivé, et toi la gloire, maintenant, ta gueule. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Les flics, les bourgs, les gardes mobiles, ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Souviens-toi de 71. » Donc la commune, hein, les égorgeurs. Je salue ici ceux qui se mutinèrent au chemin des dames et tournèrent leurs armes du côté de la Marseillaise. Je salue ici l'Internationale contre la Marseillaise. Cède le pas aux Marseillaises à l'Internationale, car voici l'automne de tes jours, voici l'octobre, où sombrent tes derniers accents. Et puis tout change en 1935, avec le comité d'organisation du Rassemblement populaire et puis ensuite la formation du Front populaire. Là, il y a une réconciliation des symboles. Alors, dans le comité d'organisation du Rassemblement populaire, il y avait des membres du Parti radical et de la Ligue des droits de l'homme, en plus des politiques. Et le 14 juillet 1935, à Montrouge, au stade Buffalo, Jacques Duclos prononça un discours annonçant la réconciliation de symboles considérés comme concurrents et même ennemis jusqu'alors. Alors voici le discours de Duclos. Des adversaires intéressés voudraient opposer le drapeau rouge au drapeau tricolore, la Marseillaise à l'international. Comme s'ils ne l'avaient pas fait eux-mêmes, c'est assez drôle d'entendre ça. Leurs efforts seront vains. Et si l'immense foule rassemblée aujourd'hui chante en cette mémorable journée, non seulement notre hymne d'espérance et de lutte, l'international, mais aussi la Marseillaise, nous n'oublierons pas que la Marseillaise est un chant révolutionnaire dont nous reprenons volontiers l'appel vibrant « Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs ». Alors, en 1936, donc, comme je vous l'ai dit, il y a le centenaire de Rouget de Lille, et à ce moment-là, Maurice Thorez, donc la deuxième grande tête du Parti communiste, ne laisse pas passer cet anniversaire et plaide lui aussi en faveur de la réconciliation des symboles. Il commémore la mort de Rouget de Lille le 26 juin, salle Pleyel, et il dit « La Marseillaise, c'est le génie du peuple de France qui rayonne de sa gloire la plus pure. Et voici que notre peuple est appelé de nouveau à donner de grands exemples. Aussi, puisant dans ses meilleures traditions, il entonne la Marseillaise, associée désormais à l'international, qu'il a suivi dans le cœur des ouvriers de tous les pays. » Puisque la Marseillaise était chantée dans très nombreux pays du monde par les révolutionnaires. « Aux accents mêlés de la Marseillaise et de l'international, sous les plis réconciliés du drapeau tricolore et du drapeau rouge, ensemble, nous ferons une France forte, libre et heureuse. » Arrive la Deuxième Guerre et la période 1940-1944, où là, on va avoir trois protagonistes pour voir comment sont utilisés les symboles. On va avoir Vichy, on va avoir Londres, et encore sous l'État français, il faut séparer, du moins jusqu'en 1942, la France occupée et puis la zone sud. Et puis on a ce qui se passe à Londres et on y a ce qui se passe dans la résistance, qu'il s'agisse des FFI ou des FTP. Alors sous l'État français, la Marseillaise fut interdite par les Allemands dans la zone occupée, où on ne pouvait la chanter qu'à ses risques et périls, ou exceptionnellement après avoir reçu une autorisation de l'administration militaire allemande. Mais elle fut conservée en zone libre comme hymne officiel. Et contrairement à une idée reçue, elle n'a pas du tout été supplantée par Maréchal Nouvola. Il y a une historienne du droit qui s'appelle Nathalie Dompnier qui avait fait son mémoire de sciences politiques sur le chant de la Marseillaise et le chant de Maréchal Nouvola sous Vichy. Alors voilà ce qu'elle explique. Elle dit que la Marseillaise chantée en présence de Pétain ou sous Pétain était cependant aménagée de manière à ne pas froisser les Allemands par des expressions comme « cohortes étrangères » ou par des appels à s'armer contre l'ennemi. Donc en général, on la réduisit à deux couplets. Le sixième, celui qui commence par « Amour sacré de la patrie » et le septième, qui est dit « couplet des enfants » parce qu'il commence par « nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la cendre de leur vertu, etc. » Et on a appelé ce couplet « le couplet du maréchal ». Et il y a des gens, enfin des auteurs, qui à propos du sixième couplet, celui qui commence par « amour sacré de la patrie », disent que c'est une Marseillaise pétainiste, comme si ce n'était pas une vraie Marseillaise. Mais je vous rappelle, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, que dans les prisons républicaines, au XIXe siècle, les républicains, puisqu'ils avaient un régime privilégié, c'est des prisonniers politiques qui avaient un régime privilégié, ils avaient parfois l'opportunité de se rassembler pour faire un repas, et à la fin de leur repas, ils s'agenouillaient et ils chantaient « Amour sacré de la patrie ». Louise Michel, elle faisait chanter à ses élèves le couplet « Amour sacré de la patrie ». Donc ce n'est pas une Marseillaise au rabais, si vous voulez, que de chanter « Amour sacré de la patrie ». Ça même était quelque chose d'extrêmement important au XIXe siècle. Le septième couplet, lui, celui dit des enfants, était chanté préférentiellement quand le maréchal Pétain allait visiter des écoles. Alors Nathalie Dompnier a comparé le nombre de fois où elle a relevé « Maréchal, nous voilà » et où elle a relevé la Marseillaise. Sur un total de 97 cérémonies publiques célébrées en présence du chef de l'État entre 1940 et 1944, pour lesquelles des chants sont mentionnés et cités explicites, parce que souvent dans des rapports, on va voir la foule chante. Donc, quand les chants sont mentionnés, explicitement cités, elle a relevé l'interprétation de la Marseillaise dans 73 cas, et « Maréchal, nous voilà » dans 15. Donc, vous voyez, la différence est vraiment trop grande, et d'autres chants dont je n'ai pas noté le titre, dans 9. Et elle précise que jusqu'à la fin, donc jusqu'en 1944, l'hymne de Rouget de Lille a accompagné le maréchal Pétain dans tous ses voyages officiels. Par exemple, le 6 juin 1944, Pétain se rend à Saint-Étienne, on chante, enfin où on joue. Quand on dit la Marseillaise, on ne sait pas très bien toujours si elle est chantée ou si elle est jouée. C'est pas tout à fait la même chose, parce que si elle est jouée, c'est une lapalissade, il n'y a que l'air. Si elle est chantée, il y a les paroles. Alors, la Marseillaise était aussi chantée dans quelques circonstances particulières. Par exemple, à Clermont-Ferrand, le 30 août 1942, il y a eu une grande fête organisée pour le deuxième anniversaire de la Légion française des combattants. La Marseillaise y a été chantée. Alors, par ailleurs, la Marseillaise était chantée dans les maquis, dans les prisons et dans les camps de concentration. Et puis à Londres, donc du côté de la France libre. Alors par exemple, le 7 juillet 1940, les Français arrivés à Londres, donc vraiment assez vite hein, par rapport à l'appel du général, donc les Français arrivés à Londres reçurent la visite du général de Gaulle, devant qui ils chantèrent la Marseillaise. Et un général qui s'appelait Garot, je ne sais pas qui c'est, confia par la suite « Quand nous entonnâmes la Marseillaise pour de Gaulle que nous voyons pour la première fois, nous nous sentîmes redevenir vainqueurs. » Pour vous dire à quel point c'était porteur. Alors Londres s'occupait aussi du sort de la Marseillaise en France. Alors par exemple, le 14 juillet 1942, à l'aube, furent parachutés en France des tracts portant un texte que le speaker de Radio Londres avait lu les jours précédents. Pavoisez vos maisons le 14 juillet. Le soir à 6h30, rassemblez-vous en grand nombre et chantez la Marseillaise. Cet appel fut entendu dans de nombreuses villes. À Carpentras, les nombreux spectateurs des Jeux de Boules se groupèrent tout d'un coup pour chanter la Marseillaise et sans doute se dispersèrent très vite. À Marseille, il y a eu 2 morts le jour où la foule a chanté la Marseillaise. Alors, l'hymne national constituait aussi une arme symbolique pour les maquisards. Alors, il y a un exemple qui m'a particulièrement frappé. Le 11 novembre 1943, une opération extrêmement risquée et audacieuse, menée par le chef des maquisards de l'Ain, qui s'appelait Henri Roman Petit, qui organise de manière très minutée une cérémonie à Oyonnax. Drapeau en tête, 200 maquisards, hein, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est 200 maquisards se rendirent au monument aux morts, ils déboulèrent brusquement dans Oyonnax, se rendent devant le monument aux morts, déposent une gerbe en forme de croix de Lorraine, chantent la Marseillaise reprise par la foule et vite se dispersent. Alors les résistants emprisonnés chantaient aussi la Marseillaise. À Fresnes, à chaque annonce d'une exécution, rapporte Jean Guéhenot, toute la prison chantait la Marseillaise ou le chant du départ en guise d'adieu à celui qui allait mourir. à la centrale d'Es, le 19 février 1944, les prisonniers politiques tentèrent une évasion collective qui échoua. Et quand ils voient que ça va échouer, ils font une insurrection. Alors ça échoue encore plus, bien évidemment. Tous les miliciens, les soldats, les Allemands arrivent autour. Ils chantent la Marseillaise. Il y a immédiatement une cour martiale qui se réunit en présence de Joseph Darnand. 12 sont condamnés à mort et les 12 chantent la Marseillaise en entendant la sentence, et ils chantent la Marseillaise lorsqu'ils sont menés au poteau d'exécution, comme ça s'est passé par exemple au Mont Valérien aussi, où on a des fusillés qui sont morts en chantant la Marseillaise. Alors la Marseillaise résonna aussi dans des camps de concentration, et un exemple connu, le 27 janvier 1943, 231 femmes appartenant au convoi dit des 31 000 entrèrent à Auschwitz-Birkenau en chantant la Marseillaise. Parmi elles, il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova, Charlotte Delbault, Rosette Blanc, enfin des femmes, des résistantes dont le nom est bien connu. Et alors il y a un autre cas terrible, en février 1945, une déportée qui s'appelait Eugénie Abrosio, qui avait quasiment 70 ans, qui avait été arrêtée comme agent de liaison à Nice, je crois, donc elle était depuis 4 ans en déportation. Elle sait qu'elle part à la chambre à gaz pour un délit qu'elle avait commis dans le camp, et elle part vers la chambre à gaz en chantant la Marseillaise. Il faut également penser aux otages de Chateaubriand, etc., etc. Et puis il y avait tous ceux qui, sans être engagés dans la résistance, pratiquait une résistance, une mini-résistance, on va dire, en chantant la Marseillaise parfois dans la rue pour exprimer leur amour de la France et le refus de la collaboration, par exemple, comme le firent des étudiants parisiens le 11 novembre 1940, dont certains le payèrent très cher d'ailleurs. Alors on arrive à 44-45, la libération de la France et la capitulation de l'Allemagne. Et donc, à partir de 44-45, l'effarant désordre symbolique qui régnait dans les différentes parties de Français prit fin. Et au fur et à mesure de l'avancée des armées américaines, des armées Leclerc et Delattre, et de la progressive libération du territoire et du départ des autorités vichistes et des Allemands, eh bien, on voyait ressurgir le drapeau et on entendait la Marseillaise. Alors, bien avant les débats relatifs à la Constitution, en 1946, les trois symboles, drapeau, hymne et devise, ont été constitutionnalisés. Dès septembre 1944, René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, il était alors ministre de l'Éducation nationale, adressa au recteur une circulaire relative à la Marseillaise qui venait, souligna-t-il, de retrouver sa valeur authentique. Estimant que chaque établissement scolaire devait célébrer notre libération et nos martyrs par l'hymne national, il souhaitait que partout fût formé un cœur d'élèves capable de participer aux manifestations patriotiques et d'atteindre, dans un ton juste, donc chanter juste, avec la bonne expression, le bon timbre, le degré d'émotion qui convient à une pareille exécution. Le ministre suggéra aussi d'enrichir le répertoire des chants de la jeunesse par d'autres chants que la Marseillaise, le chant du départ, le régiment de Sambre-et-Meuse, la marche lorraine, qui devinrent obligatoires pour les épreuves du certificat d'études. Alors, dans les épreuves du certificat d'études, on voit aussi apparaître le chant de la libération, qui est en fait le chant des partisans, qui est appelé le chant de la libération. Alors, la Marseillaise retentit dans l'hémicycle le 13 novembre 1945, donc deuxième exemple de la Marseillaise à l'Assemblée, lors de l'élection du général de Gaulle à la présidence du gouvernement provisoire de la République française. Puis le 18 avril 1946, on est en train de discuter, parce qu'en 1946, les Français ont eu à se prononcer. Premièrement, est-ce que la Troisième République continue ? Ou est-ce que vous voulez une quatrième ? Si vous voulez une quatrième, il faut une constitution. Donc les Français choisissent la quatrième. Donc, commission de la constitution. Le texte élaboré par cette commission de la constitution est soumis à référendum. Les Français en mai, refuse ce texte. Deuxième commission en constitution, deuxième texte, autre référendum pour savoir si là les Français étaient d'accord ou pas, ils ont été d'accord. Ça tombait bien, on arrêtait là. Et donc, c'est pendant qu'on discutait le premier projet de constitution que le 18 avril 1946, le président du gouvernement provisoire de la République française, qui avait remplacé le général de Gaulle qui était parti, c'était Félix Seguin. Félix Seguin se présente devant les députés au moment où les députés allaient émettre le vote final pour ce projet de constitution. Et il adjure les députés de voter pour la constitution. Ça ne marchera pas. Et après son discours, tout le monde chante la Marseillaise dans l'hémicycle. Bon, il y a la constitutionnalisation, donc dans le deuxième projet, constitution du 28 septembre 1946, c'est l'article 2. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge à trois bandes. C'est ce qui est précisé dans la constitution de 1946, à trois bandes verticales d'égale dimension. Là, maintenant, dans la constitution de 58, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Vous noterez que le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, on ne dit pas qu'est le bleu. Bon, le blanc, c'est le blanc. On ne dit pas qu'est le rouge. D'où les variations, et ça sera la même chose en 58. D'où les variations qui ont eu lieu ces derniers temps. Comme la version de la Marseillaise n'est pas précisée, on ne sait pas si c'est l'orchestration de Pierre Dupont, si c'est l'orchestration de Berlioz, etc. Donc ça peut permettre des variations et Giscard d'Estaing revient à une marche plus solennelle et plus lente que celle de Pierre Dupont de 1938. Et c'est Mitterrand qui, en 1981, remet la version de 1938. Enfin, bref, mais c'est bien de préciser que ça reste assez flou, en réalité. Alors, pendant toute cette 4e République, eh bien, la Marseillaise, elle va retrouver des usages officiels, comme on avait vu sous la 3e, et de nouveaux usages vont s'ajouter, notamment après l'annonce de la victoire de Vincent Auriol, le 16 avril 1947, quand Vincent Auriol est élu président de la République, les parlementaires, alors là c'est députés et sénateurs, se lèvent et chantent unanimement la Marseillaise, imité par le public présent dans les tribunes. Et quand René Coty est élu le 23 septembre 1953, de nouveau, Marseillaise chantée. Alors, on retrouve tous les autres usages officiels enrichis par le 8 mai, par la fête du 8 mai, dont je ne vous parle pas parce que l'histoire du 8 mai, c'est l'histoire la plus complexe de tous les jours fériés de France, avec des changements en 46, en 53, en 59, en 58, en 75 et en 81. Ça va, ça vient, ça existe, ça n'existe pas, c'est le soir, en fin de journée, c'est etc. etc. Bon. Et enfin, on retrouve les voyages officiels du président de la République, comme on l'avait trouvé sous la 3e. Ainsi, lorsque Vincent Auriol se rendit à Lons-le-Saunier le 5 novembre 1950 pour inaugurer un monument érigé à la gloire des résistants jurassiens, à l'issue d'un banquet organisé par le Conseil général du Jura, des chanteurs venus de l'Opéra de Lyon firent revivre l'inoubliable, c'est une citation, l'inoubliable tableau de la naissance de la Marseillaise de Pils, et chantèrent l'hymne de Rouge et de Lille que l'assistance reprit debout, gagnée par une indicible émotion. Vous rappelez de ce tableau de Pils de 1849 qui représente Rouge et de Lille en train de chanter lui-même la Marseillaise en levant le bras, etc. Alors qu'on sait par des témoins que c'est pas du tout Rouge et de Lille qui a chanté, que c'est le maire de Strasbourg, Dietrich, qui a chanté la version qui avait été harmonisée par Madame Dietrich elle-même. Alors, à côté de ces usages officiels, il y a aussi des usages contestataires et militants. L'année 1947 a été troublé en France. Les députés communistes ont fini par quitter le gouvernement parce qu'ils condamnaient la guerre d'Indochine. Et puis c'est déjà le début de la bisbille du côté de l'URSS, etc. Donc en 1947, à la fin du mois de novembre, la Marseillaise fut chantée au Palais Bourbon dans un climat rendu conflictuel par le dépôt de deux projets de loi relatifs à la liberté du travail et à la défense de la République. Alors là, il se passe quelque chose d'inénarrable, une séance qui dure 4 jours. On passe du journal officiel du 29 novembre, non, du 30, au journal officiel du 3 décembre. Donc ça fait 30 premiers, 2, 3 ou 4 jours. Donc dure cette séance qui est continuellement ponctuée d'invectives venant notamment de la part du groupe communiste qui chante la Marseillaise, qui est encore un chant révolutionnaire pour eux, et qui chante le chant du départ. Là-dessus arrive le communiste Raoul Calas, non prédestiné, qui monte à la tribune et qui dit « Vous allez voir ce que nous allons voir. L'hymne aux soldats du 17e, c'est un chant qu'on peut vous chanter si vous le voulez. » Et il se met à réciter des strophes de soldats, vous savez, le chant contestataire de 1907, des soldats qui s'étaient révoltés pendant la grande prise viticole. Donc, le président de séance, qui était Herriot, demande l'exclusion temporaire de Raoul Calas. Il l'obtient. Mais Raoul Calas refuse de quitter la tribune. Que faire? On fait évacuer l'hémicycle. Calas est toujours à la tribune, avec les députés communistes qui restent là. Ça a duré comme ça 3 jours. On lui envoie plusieurs fois les gardes de la Chambre des députés pour le faire descendre, mais à chaque fois, tout le groupe communiste entonne la Marseillaise, donc ils se mettent au garde à vous. Donc ils ne peuvent pas le faire descendre de la tribune. Bon, alors tout ça n'est pas raconté dans le journal officiel. On sait simplement que le journal officiel passe du 29 ou du 30, je ne sais plus très bien, au 3 décembre. Mais c'est l'historienne Georgette Elget, dans son histoire de la 4e République, qui raconte tout ça parce que elle était contemporaine des faits et elle avait reçu des témoignages oraux de députés communistes qui lui ont raconté ce qui s'était passé. Donc, tous les communistes sont finalement expulsés au petit matin du 2 décembre, je crois, et l'Humanité et France Illustration montrent un groupe de communistes passant devant l'Assemblée nationale. On voit qu'ils ont la bouche ouverte. Et la légende dit qu'ils sont en train de chanter la Marseillaise en quittant le Palais Bourbon. Alors, sous la 4e République, il y a d'autres usages militants de l'hymne, notamment lors du 1er mai. Le 1er mai, qui avait été promis pendant des décennies sous la 3e République, mais qui n'avait jamais été fixé comme jour férié, avait été fixé sous Vichy par le maréchal Pétain, qui avait dit « Je tiens la promesse des autres ». Sous Vichy, c'était la fête du travail et de la concorde sociale. Là, maintenant, on dit 1er mai, fête du travail ou des travailleurs. En réalité, la loi du 30 avril 1947, qui a été légèrement retouchée en 1948, ne porte pas du tout le nom de loi sur la fête du travail ou la fête des travailleurs. C'est la loi relative à la journée du 1er mai. Il n'est absolument pas question du travail ni des travailleurs. Alors, le 1er mai 1947, il y a eu un parcours Bastille-Nation et on avait un immense drapeau français de 200 mètres de long formé par l'Union de la Jeunesse Républicaine de France qui portait sur 3 rangées des centaines de drapeaux bleu, blanc, rouge qui claquaient et brillaient au vent et qui chantaient la Marseillaise. Alors il y a eu des manifestations plus dures par la suite à cause de la guerre d'Indochine, à cause de l'affaire du marin Henri Martin, accusé d'avoir distribué des tracts hostiles à la guerre d'Indochine, qui a été emprisonné, condamné même à 5 ans de réclusion. Il y a eu d'immenses manifestations pour demander sa libération. Il y a eu des manifestations contre la venue en France du général Ridgway, le général américain Ridgway, qu'on appelait Ridgway la peste, c'était le commandant des forces de l'OTAN. Donc pendant toutes ces manifestations, au début, pendant 1947-1948, on chante la Marseillaise. Après 1948-1949, 1949-1950, etc., on ne chante plus que l'international. On trouve aussi des 14 juillet avec la Marseillaise, etc. Mais 1958, qu'est-ce qui se passe avec la Marseillaise en mai 1958 ? L'agonie de la 4e République, comme vous le savez, se déroule sur un fond de guerre d'Algérie. On parle à l'époque du cancer algérien. Et cette fin de la 4e République s'accompagne de multiples meetings et manifestations à Alger, bien sûr, en Corse, à Ajaccio, à Bastia, mais également dans de nombreuses villes de la France hexagonale métropolitaine. Alors, manifestations organisées aussi bien par les partisans du retour du général de Gaulle que par les opposants au retour du général de Gaulle. Donc on va retrouver un désordre symbolique comme on l'a vu entre 40 et 44. Le 1er juin, le général de Gaulle est investi comme président du Conseil. Le 2, les travailleurs républicains. Républicains signifiant ici hostile au retour du général de Gaulle. Donc les travailleurs républicains manifestent par centaines de milliers à travers toute la France, dans divers arrondissements ou quartiers de la capitale, notamment à Montmartre, à la porte d'Aubervilliers, devant le siège du parti communiste qui n'était pas là où il est maintenant, place du colonel Fabien. Il était ailleurs, des manifestants chantent la Marseillaise. Le 14 juillet, selon l'Humanité, donc 14 juillet 1958, selon l'Humanité, la Marseillaise était sur toutes les lèvres à Paris et la cocarde tricolore à chaque boutonnière. Partout, dans toute la banlieue, tout était pavoisé, mais également dans certaines villes de province. Mais le 14 juillet 1958, les partisans du général de Gaulle se mobilisèrent en grand nombre, de la Concorde à l'Arc de Triomphe. On a compté 500 000 manifestants qui occupèrent les Champs-Élysées avec des drapeaux tricolores, dont un qui flottait sous l'Arc de Triomphe et en chantant la Marseillaise. Et avec des cris divers, les uns criant « Vive de Gaulle, les Algérie française » et les autres criant « Vive la République et le fascisme ne passera pas » et la Marseillaise accompagnait toute cette salade. Alors, 1958, on a la deuxième constitutionnalisation des symboles. Alors, une différence qui est que le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, il n'y a plus les bandes verticales d'égale dimension. Il y a eu un petit débat à ce sujet, ça a été vite évacué. Et alors, ce qui a changé également, mais je n'ai jamais trouvé de commentaire d'un juriste sur ce point, en 46, ça vient de Jefferson ou de Washington, je ne sais plus, le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça, c'est en... Pardon ?
C'est Lincoln.
C'est Lincoln, merci. Oui. Merci infiniment. Donc, en 46, c'est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais en 1958, c'est inversé. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est plus qu'une nuance, hein. Il y a quelque chose d'important qui se joue là, mais je n'ai jamais vu cette inversion commentée sous une plume de juriste. Alors donc, il y a cette constitutionnalisation avec ces deux petites différences. Et puis, dans cette enfance de la Ve République, s'ouvre une décennie de crises. Alors des crises qui sont de nature diverse. Il y a trois crises majeures qui sont d'ordre politique, socio-économique ou sociétal. Alors la crise d'ordre politique, bien sûr, c'est l'OAS. En janvier 1962, une grève de 2 heures est ordonnée par l'OAS. Elle fut largement suivie en Algérie, à Alger et à Oran. Et des jeunes gens et des jeunes filles défilèrent dans cette ville en criant « Algérie française » et en chantant, alors là c'est la première fois que je le vois arriver, le chant des Africains et la Marseillaise. Des chants qui étaient par ailleurs diffusés par une radio pirate qui s'appelait la Voix de l'Algérie française, qui était la radio pirate de l'OAS. Mais on va trouver des mêmes choses en France métropolitaine. 24 janvier 1962, boulevard Saint-Michel, une trentaine d'étudiants parisiens, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'étudiants de droit, sont dispersés par la police sur le boulevard Saint-Michel. Eux ne chantaient que le chant des Africains. Mais la Marseillaise appartenait aussi au répertoire vocal des adversaires de l'OAS. Par exemple, à Toulouse, au lendemain de 5 attentats, c'est ce qu'on appelait les nuits bleues, hein, quand ça pétait dans tous les coins. Donc, au lendemain de 5 attentats perpétrés dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 janvier, plus de 10 000 personnes se rendirent au monument aux morts, à tel endroit de la ville de Toulouse, et chantèrent l'hymne national pour protester contre ces attentats. À Paris, à l'issue d'un meeting organisé à la mutualité par le PSU pour la paix en Algérie, c'est l'international qui est entonné à l'issue de chacun des discours. Vous voyez, ça bouge. Alors, il y a les mouvements sociaux. Mouvements sociaux en 1962-63, des mouvements sociaux très importants qui commencent dans le bassin minier de Decazeville. La politique énergétique de la France est en plein bouleversement avec le plan Jeanneney et on commence à abandonner le charbon pour se tourner vers le pétrole. Donc dans les bassins miniers, c'est la catastrophe et c'est la catastrophe notamment à Decazeville qui n'était pas un bassin minier de première importance et surtout où le charbon n'était pas d'une première qualité, donc ça a été le premier abandonné, si vous voulez. Mais donc ça voulait dire des licenciements, des mineurs mis au chômage. On leur a proposé de gagner un autre bassin minier qu'ils ont refusé. Et le 21 décembre 1962, il y a des... Je ne sais plus combien de dizaines de mineurs qui sont restés au fond de la mine et qui ont entamé une grève de la faim. On en a beaucoup parlé. Enfin, je pourrais m'en souvenir, mais je ne m'en souviens pas. En réalité, j'ai retrouvé tout ça dans la presse de l'époque. Donc, des milliers de mineurs, dont certains remontés de la mine, des femmes et des jeunes gens, se rassemblèrent sur la place Decaze à Decazeville. La ville de Decazeville tire son nom du digue de Decaze du 19e siècle, au chant de la Marseillaise, de l'International et du chant du départ. Le 22, les délégués des mineurs se rendirent à Carmaux, autre ville minière. Ils furent accueillis par la municipalité et la population. Ils firent le tour de la ville, s'arrêtèrent devant la préfecture et le monument aux morts en chantant la Marseillaise et l'International. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de retrouver les combinaisons ou les dissociations entre Marseillaise, International, Marseillaise, chant du départ, Marseillaise, chant des Africains, etc., etc. En mars 1963, l'agitation sociale gagna le bassin lorrain. Le 13 mars, les mineurs de fer de l'Est se rendirent à Paris. Ils étaient répartis dans 360 voitures distantes les unes des autres de 20 mètres. Ils formèrent un impressionnant cortège de plus de 7 km. C'est ce que j'ai relevé dans la presse. Je n'ai pas fait le calcul de voir si 360 voitures... paraît que ça faisait un cortège de plus de 7 km qui fut accueilli à Pantin par la municipalité. Là, des autocars attendaient tous ces mineurs, les emmenèrent à Paris, où la foule les reçut sur l'esplanade des Invalides, en chantant la Marseillaise et l'International. Et puis enfin, le mouvement sociétal et politique à la fois, qui est le mouvement de 68. Alors, je rencontre peu de Marseillaises dans les cortèges ouvriers ou étudiants, quelques-uns, mais pas beaucoup. J'ai rencontré aussi le régiment de Sambre-et-Meuse, par exemple, qui était chanté par les ouvriers de Sud Aviation, près de Nantes. Mais généralement, il n'est question que de l'international. Le 7 mai, arrivé à l'Arc de Triomphe, un cortège de manifestants entourèrent la tombe du soldat inconnu au son de l'international. En revanche, le 30 mai 1968, il y a eu une immense manifestation gaulliste organisée par les CDR, les comités de défense de la République. On y a entendu le chant du départ, le chant des Africains, mais surtout la Marseillaise, qu'on a entendu aussi en province, par exemple à Dijon, le 30 mai, précédé d'un immense drapeau tricolore, 15 000 personnes rassemblées sur la place du théâtre gagnèrent une autre place de la ville en chantant la Marseillaise. Puis, arrivés sur la place de destination, ils brûlèrent un drapeau rouge et chantèrent de nouveau la Marseillaise. Alors, j'en viens aux usages sous la Ve République. On va toujours retrouver le même type d'usage. Mais là, j'ajoute quelque chose d'important. Pendant les campagnes présidentielles, après 68, les symboles nationaux, ils sont quand même tombés, enfin on considérait que c'était ringard, que c'était dépassé, que la Marseillaise était fasciste, que le drapeau était ceci, cela. Et qui est-ce qui va essayer de réveiller tout ça? C'est Ségolène Royal en 2007, qui invite les Français à pavoiser, et le 22 mars, à Marseille, dans un meeting, elle fait entonner la Marseillaise à son public. C'est très mal vu par l'extrême gauche. Alors, à côté de ces usages strictement politiques, on va retrouver d'autres usages officiels, comme on en a vu déjà sous la Troisième République, avec les panthéonisations. Parce que le rythme des panthéonisations, qui avait été très lent, les panthéonisations, on n'a pas eu beaucoup non plus sous la Quatrième République. Les panthéonisations, le rythme des panthéonisations est vraiment reparti à la hausse avec la Cinquième République. Et donc à chaque fois, on a un déploiement de tricolores. Vous avez pu le voir encore avec Robert Badinter récemment. Et puis on a la Marseillaise. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais je n'ai pas du tout aimé la Marseillaise qui a été chantée tout à la fin de la panthéonisation de Robert Badinter. On aurait dit que c'était une Marseillaise chantée en canon. Tous les vers étaient décalés et j'ai pas trop aimé. Et qu'ils faisaient des petits arrangements sur les queues de vers. Enfin, c'était bizarre. Donc, la Marseillaise, on va l'entendre surtout avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz en 2015, Maurice Genevoix en 2020, Joséphine Becker en 2021, Missak et Méliné Manoukian en 2024 et enfin Robert Badinter en 2025. Alors, on a d'autres cérémonies qui ont aussi une tonalité funéraire où on a pu entendre la Marseillaise. Ça a été notamment lors de l'hommage rendu dans la cour des Invalides le 28 mars 2018 au colonel Arnaud Beltrame, vous savez celui qui avait... Et le 2 décembre 2019 à 13 militaires morts pour la France au Mali le 25 novembre. Et puis enfin, pour Samuel Paty, dans la cour d'honneur de la Sorbonne le 21 octobre 2020, où un orchestre à cordes de la garde républicaine à jouer la Marseillaise. C'est pas si fréquent que ça qu'on joue la Marseillaise sur des cordes. Alors, l'année 2015 fut marquée donc par les attentats de janvier, 7 et 9 janvier, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, à la porte de Vincennes, et puis la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, et puis ensuite en novembre. Donc, le 27 novembre 2015, l'hommage aux 130 victimes du Bataclan a été rendu dans la cour des Invalides et se termina par une magistrale marseillaise interprétée par les chanteurs de l'Opéra de Paris, le chœur de l'armée et l'orchestre de la garde républicaine. Alors, en janvier et en novembre, l'hymne national résonna aussi dans les enceintes parlementaires. Le 13 janvier, alors que les députés observaient une minute de silence à la mémoire des victimes, donc des frères Kouachi, Serge Grouard, député maire d'Orléans, entonna la Marseillaise, qui fut immédiatement reprise par tous ses collègues. Et le 16 novembre, réunis en congrès à Versailles, députés et sénateurs adoptèrent donc ce même rite après le discours du président Hollande. Alors, dans les usages militants, j'en ai retenu un parce que je l'ai trouvé drôle. Le 1er décembre 2018, à Saint-Avold, dans la Moselle, des gilets jaunes se mirent à entonner la Marseillaise. Et puis, il y avait des CRS qui étaient là. Et bien, il y en a plusieurs qui ont enlevé leur casque et qui ont chanté la Marseillaise avec les gilets jaunes. Alors, quelques petits mots encore à vous dire. Les symboles ont vraiment dégringolé après 68. Les essais de résurrection par Ségolène Royal ont été accueillis quand même par pas mal de moqueries du côté de l'extrême gauche. Je me souviens d'Arlette Laguiller disant, Marie-Georges Buffet aussi, le Parti communiste, ont critiqué enfin Ségolène Royal de faire ça. Eh bien, on va reprendre en quelque sorte l'école en main pour que de nouveau les élèves sachent quels sont les symboles de la France. Alors, ça a commencé avec Jean-Pierre Chevènement en 1985, JO du 25 mars 1985. Le ministre annonce la réintroduction de l'éducation civique à l'école et au collège. Je peux vous dire que c'était pouf, ça avait plongé au fin fond de tout. Je le sais bien, j'étais professeur d'école normale de 73, n'est-ce pas Michel? De 73 à 85, donc je voyais bien ce qui se passait dans les classes. Et je me souviens qu'un jour, je m'étais risqué à dire à des instituteurs qui étaient en formation continue, on disait élégamment à l'époque hors cyclage, les instituteurs hors cyclage. Je m'étais risqué à dire à un groupe d'instituteurs qu'il faudrait quand même penser à revoir un petit peu du côté de l'instruction civique, mais j'ai cru qu'ils allaient me défenestrer, hein, vraiment. Ils étaient furieux. Donc les symboles devaient y avoir leur place, car, dit Chevènement, il est remarquable que le sentiment national français s'incarne dans des symboles républicains. Le drapeau tricolore, la devise liberté, égalité, fraternité, l'hymne national, la Marseillaise, symbole de la patrie et de la République, dont le texte et la musique doivent être naturellement expliqués, appris et chantés par tous les jeunes Français. Et le 15 mai 1985 suivent les instructions officielles. Alors le drapeau tricolore et la Marseillaise y sont mentionnés pour le cours préparatoire et la devise pour le cours élémentaire. Alors ça n'avait pas dû bien porter ses fruits parce qu'en 2005, la loi Fillon, dite loi d'orientation pour l'avenir de l'école, demanda qu'on ajoute à l'article L321-3 du Code de l'éducation une phrase rendant obligatoire l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. En 2011, l'association DIH, c'est un mouvement de protestation civique, dépose un recours devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir en se réclamant notamment l'alinéa 2 de l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibant, citation, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Or, dit ce mouvement de protestation civique, les Verts, qu'un sang impur abreuve nos sillons, et quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, sont contraires aux stipulations du pacte international. C'est une incitation à la haine, à la violence, etc., etc. Commentaire que je fais dans mon livre, il ne s'agit là que l'une des preuves montrant que la Marseillaise est incomprise ou mal comprise. Ses détracteurs ignorent systématiquement l'enseignement du cinquième couplet, le suivant, « Français, en guerrier magnanime, portez ou retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. » Et font généralement un contresens à propos de « contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé ». Servait à plusieurs reprises. Alors, quoi qu'il en soit, le 23 décembre 2011, le Conseil d'État rejeta la requête et, dans ses considérants, rappela qu'en tant qu'hymne national, la Marseillaise symbolise les valeurs de la République. Puis, 24 mai 2018, le Conseil supérieur des programmes prend un arrêté pour établir des repères annuels de progression en matière d'enseignement moral et civique pour les cycles 2 à 4, c'est-à-dire du cours préparatoire à la classe de 3e, soit 9 années de scolarité. Alors, l'apprentissage des symboles est concentré sur 4 années. Au CP, les élèves apprennent à identifier le drapeau français et comprennent la signification de ses couleurs. Ils savent reconnaître la Marseillaise, l'air, je pense. Au CE1, les élèves connaissent la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ils apprennent à chanter le premier couplet de la Marseillaise. Au CE2, les élèves savent chanter par cœur le premier couplet de la Marseillaise. Au CM1, les élèves découvrent le contexte historique de la création du drapeau tricolore et de la Marseillaise. Ils savent chanter par cœur un ou plusieurs couplets de la Marseillaise en public. Ils reconnaissent le drapeau européen et l'hymne à la joie. Et enfin, 26 juillet 2019, loi dite pour une école de la confiance, donc Blanquer, demande qu'il y ait dans le code de l'éducation un nouvel article L111-1-2, l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degré, public ou privé sous contrat. J'ai parlé récemment à Blois devant, enfin on était trois à parler devant une centaine de personnes, dont de nombreux enseignants, qui ont tous juré qu'ils n'avaient jamais mis ça dans leur classe. Et je connais un photographe scolaire qui va dans de nombreuses classes et qui me dit qu'il n'a jamais vu ça. Enfin, ou très peu souvent. Donc, autrement dit, cette recommandation de la loi Blanquer, pouf. Et je sais que dans une des premières mesures que je vous ai citées, le SNUIPP n'avait rien retrouvé à redire, mais après la loi Blanquer, on a parlé de manipulation des enfants, de militarisation des enfants, etc. Et enfin, dernier point, c'est le rôle du sport dans l'apprentissage des symboles. Et j'ai l'impression, mais je ne connais pas d'enquête qui compare la formation des enfants via l'école et via les clubs sportifs, notamment les clubs de football. Mais en tous les cas, quand on voit ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde en 1998, la Coupe du Monde en 2018, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, on voit bien que la Marseillaise et le tricolore sont omniprésents. Et les gens l'entendent chanter. Alors, en général, les gens connaissent, en réalité, pour la Marseillaise, on entend chanter surtout le refrain. Je ne suis pas sûre que les gens connaissent le couplet. Et ben voilà. Alors, normalement, j'aurais dû vous parler de tous les outrages, parce que là où le drapeau et la Marseillaise sont le plus outragés, c'est pendant toute cette période, depuis les années 80-90. On pense à Gainsbourg, on pense à Pierre Desproges, le dialogue totalement absurde d'un journaliste qui interviewe un paysan. Ça va chez vous ? Non, ça va pas. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous voyez bien, ils arrivent dans nos bras pour prendre nos filles et nos enfants. Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Former des bataillons. Puis après, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? On va abreuver nos sillons de sang. Alors le journaliste dit, abreuvez vos sillons de sang impur, mais c'est pas très écologique tout ça. Mais si, c'est très bon pour les sillons. Et alors Pierre, ça c'était dans le tribunal des flagrants délires. Et puis alors en 1986, dans les chroniques de la haine ordinaire, alors là il a proposé, c'était dans un studio, il y avait un petit public. Il avait apporté des feuilles polycopiées, renotées, je sais pas trop quoi. Il leur a fait chanter une version que je n'oserais même pas vous chanter, une version licencieuse de la Marseillaise. Et ça a été, je crois que c'était le 24 juin 1986, ça a été la dernière chronique de la haine ordinaire. Donc moi j'ai écrit à Radio France pour savoir si on avait mis fin à l'émission, tellement les protestations avaient été fortes, ou bien si c'était la dernière émission qui était programmée et que Pierre Desproges s'était dit « ça va bien, je risque rien » et je leur balance ce truc. Mais j'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas. Voilà. Bon, il y a eu plein d'autres outrages, hein, ou sur l'air. Il y avait eu en 46, il y avait une Marseillaise en jazz, ensuite il y a eu reggae, il y a eu la Marseillaise reggae de Gainsbourg. Il y a le film Liberté, égalité, choucroute de Jean-Yann, où on voit Rouget de Lille, c'est peut-être Jean-Yann qui fait Rouget de Lille, je ne sais pas, qui essaye de composer un chant, on lui a demandé de composer un chant. Donc il a péniblement écrit les paroles de la Marseillaise et il écrit encore plus péniblement, il essaye encore plus péniblement de composer une musique. Et tous les autres trouvent que sa musique ne vaut rien du tout et que son papier, il est bon à mettre à la poubelle. Alors il va, non, on peut en tirer quelque chose. Alors il prend les paroles et il se met à chanter la Marseillaise sur un air de Franche Cancan. Et ça marche. Donc il y a toutes ces choses-là, voilà. Et puis, je crois que c'est l'an dernier ou même cette année, il y a eu une polémique parce que je ne sais quel comité Théodule a demandé aux Français de laver moins souvent leur linge ou de faire, ça c'était il y a quelques mois, je crois.
C'est l'ADEME.
L'ADEME qui a demandé ça.
Oui, c'est une établissement public.
Oui. Donc de faire moins de lessive pour économiser l'eau. Oui. Et du coup, quelqu'un a lancé une Marseillaise avec le refrain qui était « Puons, puons, qu'un air impur embaume nos naseaux ». Il y en a eu plein de Marseillaises. Il y a eu toutes les Marseillaises de la fraternité, les Marseillaises de la paix. Il y a eu la fourmilienne après la fusillade de fourmis en 1991. Il y a eu une Marseillaise des femmes. Il y a eu une Marseillaise ouvrière. Je connais trois ou quatre Marseillaises libre-penseuses. Alors, oui. Et alors, il y a la Marseillaise, la première Marseillaise de la paix dont on parle, c'est la Marseillaise de Lamartine qui doit être de 40 ou 41, 1800, je veux dire, et qui en fait n'a rien à voir avec la Marseillaise. C'est un très long poème qui ne suit pas du tout en termes de versification la structure de la Marseillaise, et il n'y avait pas de musique, c'était un poème. Donc on a appelé ça la Marseillaise de la paix parce que ça répondait à un chant belliqueux des Allemands qui se moquaient de la Marseillaise. Après, il y a eu une vraie Marseillaise de la paix composée par un pasteur protestant qui devait s'appeler Martin Pichou, je crois, et qui devait dater des années 1870-1880 et qui a été chantée dans un orphelinat, l'orphelinat de Paul Robin, l'orphelinat de Sampuy, qui était un orphelinat avec une pédagogie extrêmement avant-gardiste. Et Paul Robin faisait chanter la Marseillaise de la paix à ses petits pupilles. Et puis, il y a eu... les paroles de la Marseillaise sont très, 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 très critiquées. Donc, c'était dans les années 70. Il y a eu un grand mouvement pour une Marseillaise de la fraternité qui a été créée par l'abbé Pierre, qui était député à l'époque. Ou il ne l'était plus. Non, il était député dans les années 50. Il ne devait plus l'être en 71. Il était député dans les années 50. Mais il avait encore pas mal d'accointances avec le monde politique et son mouvement pour une Marseillaise de la fraternité a bien marché. Il y a des Marseillaises de la fraternité, plusieurs versions qui ont été proposées, toutes plus cuculapralines les unes que les autres. C'est ça qui est dommage parce que on pense ce qu'on veut des paroles de la Marseillaise, mais pour prendre une expression familière, ça a de la gueule, si vous me permettez. Les Marseillaises de la paix ou de la fraternité qui sont proposées, mais on dirait qu'on vous verse du sirop d'orgeat dans la bouche. Je ne sais plus quelle écrivaine a dit, pour composer une nouvelle Marseillaise, il faudrait s'appeler Victor Hugo ou Paul Claudel. Mais il n'y a pas une nouveau Victor Hugo pour composer une nouvelle Marseillaise.
Moi, je connais une Marseillaise de la Courtille.
Ah oui.
Qui dit « Tremblez lapin, tremblez volage jusque dans nos entrailles. Peut-être qu'un jour, c'est vous qui nous ferez cuire. »
Oh, la Marseillaise de la Courtille. Ben, vous savez presque tout de la Marseillaise.